la machine à découdre.
Pour en découdre avec les forces de l'ordre, je ne vous décris pas tous les objets dangereux pouvant servir de projectiles.
Il y a une envie d'en découdre chez les militants, oui.
Ce sont des lycéens de deux établissements qui s'étaient donné rendez-vous pour en découdre.
Naturellement, vous aviez envie d'en découdre.
La machine à découdre. Une émission qui détricote l'actualité en points croisés.
Vous êtes bien sur le 895 de Radio Duo et comme tous les quatrièmes lundis du mois à 20h30, c'est la machine à découdre, l'émission qui récolte des sons le temps d'un week-end et qui les transforme en aventures que l'on vous raconte en direct. Cette fois, on a voulu faire une émission sur l'ASSE, mais vu qu'on manque de temps de préparation, c'est la galère. On prend donc l'option appel à un ami, on contacte une source qui peut-être pourra nous aider à rencontrer des ultras.
Ouais, salut la machine à découdre. Alors, j'adore votre idée de faire une émission sur le stade Saint-Étienne. Bon, bah, Saint-Étienne, il n'y a rien de toute façon à part le stade. Donc, bon, je tenais quand même à vous dire que, bon, dans le monde, il y a les gauchistes, il y a le stade. Et puis, en fait, moi, je fais tout le temps l'intermédiaire. Genre, dès qu'il y a des gens, des gauchos qui veulent venir, ouais, prends-moi une place, c'est super le stade, c'est génial, c'est populaire, ok, je prends des places. Et puis après, il y a les gens qui veulent des interviews des supporters. Genre, ouais, Saint-Étienne, c'est de gauche, c'est super. Sauf que c'est pas si facile. C'est pas un milieu qui se pénètre comme ça. Vous avez pas été fichu d'aller la semaine dernière à la manif pour la dissolution. Je veux dire, c'était le moment et il y avait personne de votre équipe. En fait, faut savoir ce qu'on veut dans la vie aussi. Alors, en plus, demain, il y a le match contre Troyes. C'était le match à pas louper. Fallait s'investir pour trouver des places. Il y avait moyen de au moins capter du son ou je sais pas quoi. Et ils ont même pas été capables de dégoter une place. C'est quoi cette équipe de Brancignoles? Ah, j'ai envie de dire maintenant, vous démerdez, vous allez au stade, vous investissez dans le truc, vous devenez vous-même ultra, et là, ok, vous pourrez faire des interviews et parler dans votre radio de gauchiste sur les supporters. D'accord? Bon, bisous.
Ouch, ça fait mal de se faire remettre à sa place. Notre émission sur l'ASSE commence pas hyper bien. On aimerait obtenir une interview exclusive des ultras, mais on se fait recaler par tous nos contacts. On nous traite comme de vulgaires journalistes. Nous, des journalistes? Alors ça, c'est la meilleure. On respire, on prend sur nous. On veut pas nous parler? C'est pas grave, on accepte les critiques. On respire. Il faut aussi savoir se remettre en question. Cette fois-ci, pour cette émission, pas d'excuses. On est au taquet, pas de panne de réveil, pas de retard, pas de gueule de bois. On est frais et en pleine forme. On a même pensé aux piles pour nos enregistreurs. Il est 10h du matin. Stade Geoffroy Guichard, le chaudron comme on dit par chez nous. Ce soir, c'est jour de match. On n'a pas de billets, mais on est déterminé à entrer dans le stade, quoi qu'il en coûte, pour l'amour de la radio. On traîne au milieu de l'immense esplanade. On regarde des gens qui errent. Il y a surtout des vieux couples, on se demande si c'est ambiance monsieur ramène sa femme au stade ou si c'est de fidèles ultras de l'âge d'or de l'ASS. Il y a aussi le très classique papa emmène le fiston s'acheter un truc à la boutique avant le match, les gars qui boivent des bières à la buvette, un mec torse nu visiblement bourré boit aussi des bières à côté d'une baraque à frites sur une chaise de camping. Les employés s'activent, préparent les friteuses, déplacent des trucs. Ils font plusieurs allers-retours pour bouger des tonnes de fûts de bière avec un transpalette. Tout le monde se prépare pour le match. C'est très bière-friendly de stade. Et il est toujours 10h du mat. On se demande ce que foutent les gens. Parce que nous, on a une excuse, on fait une émission de radio. Mais les gens déambulent, regardent autour d'eux, marchent vers un côté du stade, puis vers l'autre. Achètent des trucs à la boutique, s'assoient sur des bancs, boivent des bières. On imagine que les fidèles du stade qui viennent de loin n'ont que cette vision de la ville. Un parking, une zone industrielle et commerciale et un bâtiment immense, gris, avec un nom de patron. On commence à se faire chier, alors dans un élan de motivation, on va au musée de la SSE. On se dit qu'on pourra peut-être s'y cacher jusqu'à ce soir et entrer en douce pour le match.
Dorénavant entraîneur après avoir été joueur, Jean Snella incarne le renouveau de l'AS Saint-Étienne. Venu du bassin minier du Nord, il construit une équipe fondée sur la jeunesse et l'offensive. À partir de 1950, la SSE s'installe peu à peu au sommet du championnat.
C'est le maillot du match d'inauguration.
Il doit sentir mauvais depuis le temps. Comment ils font pour être sûr qu'il n'y a pas des mythes qui vont le manger, toi ?
Normalement, si c'est des objets de collection, il y a des conservateurs qui les
donnent. Mais genre, ils le lavent des fois, quoi ?
Non, il reste là. Mais c'est pareil pour le papier, si tu le laisses à l'air libre, ça tombe.
Et ouais. C'est sous vide, en fait. Genre là, c'est sous vide.
C'est pas vraiment sous vide.
Ah.
C'est genre toujours la même température, très peu d'humidité.
Ah ouais, d'accord. Ouais, mais c'est l'occasion d'avoir un peu des infos.
De toute façon, il n'y aura rien d'autre à dire.
En tout cas, pour l'instant.
On a trouvé le salaire d'un joueur pro.
Statut de professionnel. Ça devait être encore plus dur d'avoir des places à l'époque. Il y avait une toute petite tribune. Ah, mais c'est genre toutes les coupes qu'ils ont gagnées, mais elles sont toutes petites.
C'est le gars qui vous a visite guidé là qui dit maintenant on va aller au stade et tout. Par contre. En fait, il y a des ultras qui sont en train de préparer leur banderole et il faut vraiment pas que vous fassiez des photos de leur banderole parce qu'ils tiennent beaucoup à garder tout secret et vraiment ils peuvent être très énervés sur les photos et tout. Du coup, faites très attention à ça. Et t'as un vieux qui dit mais tout à l'heure avec ma femme, on a fait un FaceTime et ils nous ont engueulés et tout.
Et il y a des guides, c'est
des guides, c'est des
guides. Ok,
d'accord.
Parce
qu'on est
tous, ok, ah oui. Et pourtant, je crois que vous êtes le musée le plus visité, peut-être après le musée de la nuit. Ben, ou pas
ouais,
loin,
ouais, ouais, c'est ça, ouais. Mais voilà, on a pas mal de bénévoles.
Ok. Et
même stagiaires aussi.
Voilà. Merci beaucoup.
Merci à vous. Bonne journée.
Au revoir.
Bonjour.
En fait, ouais, une fois que t'as une salle, t'as un peu tout le contenu. En gros, c'est pas mal le même contenu qui est répété un peu dans les vidéos. Donc.
Ils font tout le temps en boucle 76, quoi. Boucle en boucle en boucle.
Il y a un mur sur les féminines, genre un mini mur. Hein.
Ah oui, ouais, un muret, quoi. Il y a le muret des féminines.
Il y a des petites salles qui se parlent un peu des supporters, vite fait, la vidéo là.
Il y a un endroit où tu peux jouer au. Tirer des pénaltys face à l'Arseneur.
Ah, ça c'est bien.
Ou la gardienne.
Ils sont bons.
Les féminines. Et ben si tu tires au milieu, ça marche à chaque fois et sinon ils arrêtent tout.
Ah ouais, ok.
Pour faire des palenkas.
Tu peux pas gérer la force.
Pour faire des palenkas.
Tu peux pas faire de palenkas. Hein. C'est, le capteur il détecte que tu tires tout droit. Quoi. Et tu peux pas tirer, tu peux pas rater ton tir. Et
ok.
Tu peux pas. Enfin bref, c'est.
Marrant.
C'était un peu le climax en termes.
Ouais.
De stimulation.
Sinon, non, c'est des trucs classiques de musée avec vidéo. Et...
Après, il y a du budget, par contre.
Des panneaux à lire.
Dur de plus.
Oui, ça, au bout d'un moment, ça... ouais, l'histoire, elle est pas infinie non plus, quoi.
Il y a une salle avec toutes les.
Non, mais c'est intéressant, je sais pas moi.
Avec quoi ?
Avec toutes les.
L'origine des joueurs, ouais. L'origine sociale des joueurs.
Je pense, si t'as de l'émotion en voyant les coupes, enfin en voyant des médailles.
Si t'as vécu les
fêtes. Ouais, voilà.
Ça les fait rigoler que Salif Keïta soit fait dépouiller à Montreux.
Il y a une salle où il y a une vidéo.
Que il y avait personne pour l'accueillir.
C'est un peu épique, quoi.
C'est un beau musée. La scénographie a dû coûter très cher. Il y a de jolis objets dans des vitrines montrés comme des précieuses reliques. Des crampons de stars de la SS, des fanions de matchs mythiques, des ballons signés, des maillots crasseux. On s'attend même à voir une mèche de cheveux d'un entraîneur charismatique ou des rognures d'ongles de pied d'un joueur légendaire, mais ça n'allait pas jusque-là. Tout nous semble très nostalgique de la grande époque de la SSE. Sur une vidéo, un supporter dit « Même les Lyonnais étaient stéphanois à l'époque ». Ça nous a choqués. On déambule avec nos audioguides, on apprend des trucs, on perd au quiz interactif, on se laisse porter par le discours d'idolâtrie footballistique du musée. On rencontre un guide attitré aux visites de stade, il peut peut-être nous faire rentrer.
Bah déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le premier musée dédié à un club de foot en France. Et ce qui est fascinant, c'est que c'est un musée vraiment qui attire beaucoup de monde qui viennent de l'extérieur de Saint-Étienne. Je pense que c'est voilà, le musée qui accueille le plus de gens issus d'autres départements que de la Loire. beaucoup de nationalités aussi différentes qui viennent. Je crois que c'était l'an passé, le jour du derby, il y avait 12 nationalités différentes qui étaient venues visiter le musée. Et il y avait 54 départements. Alors, donc, le club, à l'origine, appartenait à la famille Guichard, donc à Casino, hein, directement, vu que c'est Casino qui a fondé le club dans les années 30. En 65, la famille Casino n'avait pas plus les moyens pour financer l'électricité du stade. Parce qu'avant 1965, les matchs avaient lieu en journée, donc il n'y avait pas besoin d'allumer des projecteurs. À partir de 65, on commence à faire des matchs en nocturne, donc il faut des projecteurs, il faut de l'électricité. La famille Casino ne peut pas assumer et donc elle va vendre le club à la ville de Saint-Étienne. Que le club a appartenu pendant de longues années à la ville de Saint-Étienne et désormais c'est Saint-Étienne Métropole qui possède le stade et donc qui le loue au club. Alors je sais que lors des élections municipales, il y a un candidat qui a mentionné l'idée que le club rachète le stade. Le club a démenti être intéressé pour le moment. Bah déjà, il y a une histoire liée à Casino avec le club. Hein. Le club est à l'origine un club omnisport pour les employés de Casino. Hein. Quand Geoffroy Guichard crée l'AS Casino, hein, c'est vraiment pour que ses employés, au lieu de traîner dans les bars et dans les cabarets, fassent du sport. Donc il y avait toutes sortes d'activités sportives. Hein. Il achète des terrains vers le pont de l'Anne. Voilà. Il va leur les mettre en tenue vert et blanche parce que c'était les couleurs de Casino. Et en 1931, il y a son fils qui fait un stade, donc le stade qu'il va nommer Geoffroy Guichard. Mais à l'origine, c'est même pas un match de foot qu'il y a, c'est un match de rugby hein, entre le club de Casino. Et, enfin non, même pas, c'était des universitaires de Saint-Étienne qui faisaient du rugby et le club de Montferrand. Donc voilà, il y a vraiment eu un lien entre Saint-Étienne et l'industrie. Par rapport à l'industrie aussi... Il y a le fait que le stade soit surnommé le Chaudron. C'est en lien également avec toutes les cheminées d'usines qu'il y avait tout autour. Des cheminées qui crachaient des fumées pendant les matchs. Donc, ce qui crée un peu cette atmosphère de chaudron en plus de l'ambiance très, très chaude qu'il y a toujours eu. Alors, pendant la Seconde Guerre mondiale, le maréchal Pétain, en fait, il va être contre la professionnalisation du sport. Et donc, désormais, on n'aura le droit qu'à avoir qu'un seul club professionnel par académie. Et donc, du coup, c'est Lyon qui sera le club professionnel de la région. Et donc, du coup, à cette époque, y a pas mal de joueurs de l'ASS qui vont rejoindre Lyon. Mais il y en a d'autres qui vont rester à l'ASS. Et pour qu'ils puissent continuer à jouer, Casino va leur faire des faux contrats de travail. Comme ça leur permet en fait de toucher un salaire. Tout en défendant les clubs, les couleurs du club qui existait toujours, mais qui était redevenu amateur. Et d'ailleurs, il y a un match, je crois que c'est en 42 ou en 43, hein, c'est un match de Coupe de France. En Coupe de France, les amateurs peuvent rencontrer les professionnels, et c'est un derby contre Lyon. Hein, et il y a les joueurs de Lyon qui jouaient avant à la SS qui se font huer par les supporters. Et d'ailleurs, c'est un match que les amateurs de la SS vont gagner.
On est d'accord qu'il y a des gens qui sont en train de regarder dehors. Salut, t'en sais un peu mieux toi peut-être. Pourquoi les gens ils regardent dehors et pas le match? Ils ont payé leur place quand même.
Ah parce que ça s'est embrouillé.
Et c'est quoi?
Regarde, toute la police qui est
là. Mais pourquoi ils sont là eux?
Ça
c'est eux qui sont embrouillés. C'est les flics qui sont embrouillés
entre eux. Ils sont venus après.
Et tu sais ce qui s'est passé?
Ça s'est battu.
Ah ouais carrément. Et toi t'es pas au match.
J'ai pas de billet.
Ah putain, hein? Comme nous.
Putain.
T'as pas une technique pour rentrer dans le
Allez,
stade?
Allez, on y va.
Non.
Il y a une tentative de rentrer avec les pompiers, mais ça a pas marché.
Caisse commerciale.
Et le faire rentrer. 4.
Je sais pas, moi, là.
On est entre nous.
2 de plus, 2 de moins, c'est pareil. Sur 42 000, c'est rien. 4 sur 42 000.
Que 4 personnes, personne ne va le savoir.
Si on peut pas rentrer, c'est pas grave, mais si on peut rentrer, on est content. Si on fait rentrer tous les gens, ils vont battre le record, tu vois. Ce sera un jour historique.
Depuis 9h du matin,
on était là-bas nous, on attendait.
Venez là,
du stade, mais on voit bien tout le match. Alors que selon où tu es placé dans le stade, tu vois rien. Finalement, c'est pas plus mal.
Mais oui, ils gagnent bien leur vie et on peut noter une grosse, grosse différence avec l'équipe féminine, par exemple. Mais voilà, l'équipe féminine, ben, y a moins de droits télé qui diffusent leur match. Pourtant, elles sont en première division. Hein. Elles ne jouent pas au stade du Franck Guichard, elles jouent plutôt du côté soit du centre de formation, soit du côté de l'Étivalière. Et ça attire moins de monde. Mais elles sont professionnelles, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques années. Donc elles peuvent vivre quand même de leur passion. Donc ça, c'est quand même un progrès. La section féminine, elle a... Ouais, même pas 20 ans, je pense. Ouais, c'est une petite quinzaine d'années, donc c'est assez récent. Et en fait, avant 2011, il y avait déjà une section, mais elle n'appartenait pas totalement à la SS. Ouais, c'est depuis 2011 que c'est direct vraiment intégré au club. Et en fait, on a un bon exemple chez les voisins, c'est Lyon, hein, qui, on a beau ne pas les apprécier, très tôt, ils ont mis en valeur le football féminin, et aujourd'hui, c'est un des plus grands clubs du monde. Il y a très tôt eu des joueurs d'origine étrangère à Saint-Etienne. Hein. Dès les années 30, Saint-Etienne accueille des joueurs étrangers. Hein. Dès en fait, la création du club. Et après, il y a des joueurs qui ont vraiment marqué l'histoire. Ben, on a Jean Snella, qui était d'origine polonaise, qui a été donc un très bon joueur du club, mais aussi un très grand coach. Hein. C'est avec lui, qu'on gagne nos premiers titres de champion. Et puis, il y a un joueur qui, moi, de par mon histoire personnelle en tant que franco-algérien, me parle davantage, c'est Rachid Mekloufi. Donc Rachid Mekloufi qui est né à Sétif dans l'Algérie française et qui intègre le club dans les années 50 hein, et très vite il va faire étalage de tout son talent hein. Et en 58 alors qu'il allait sans doute participer à la Coupe du Monde de foot sous les couleurs de la France, il décide avec 9 autres joueurs algériens du championnat de France de quitter clandestinement le pays et rejoindre la Suisse pour créer l'équipe de foot du FLN, qui ne sera pas reconnue par la FIFA, mais qui pendant 4 ans, donc de 58 à 62, va faire des matchs d'exhibition dans le monde entier. Et il revient à Saint-Etienne en 63. Au début, il est un peu mal reçu parce qu'on lui reproche d'avoir un peu abandonné le club. Hein. Au bout de 2-3 dribbles, et voilà, le public s'enflamme de nouveau pour lui. Hein. Et il va rester jusqu'en 68. Hein. Il a été ambassadeur du club par la suite. Et c'est le deuxième meilleur buteur de l'histoire de la AS Saint-Etienne derrière Hervé Révelli. Hein. Et voilà, son histoire, elle est assez folle. Voilà, alors qu'il avait la gloire, il a préféré, par conviction, mettre en parenthèse sa carrière. Et ça ne l'a pas empêché d'être devenu une icône ici. Hein.
Pour l'instant, on n'a pas entendu grand-chose sur l'immigration, alors que la ville industrielle qu'était Saint-Etienne en est imprégnée jusqu'au fond des lignes. Et dans les industries stéphanoises, il y en a eu. Des directeurs racistes, des départs forcés, des histoires oubliées entre deux pays, ni dans l'un ni dans l'autre, au milieu de deux nationalismes. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des quotas de sportifs de nationalité non européenne dans les fédérations françaises. Alors, on se dit qu'il faut creuser cette question avec quelqu'un qui s'est renseigné sur l'histoire de son oncle, un joueur de l'ASSE, français puis algérien, Wari Wali. On retrouve son neveu dans ce qu'on nous a décrit comme l'endroit idéal pour regarder un match, le Café des Sports. La patronne est connue pour être une supportrice des Verts, la seule meuf qu'on rencontre depuis le début de l'émission. Mais quand on débarque, plus d'écharpe des Verts, plus de panthères noires, et la patronne ne suit plus les matchs parce qu'elle trouve que la SSE est nulle. Heureusement, notre interlocuteur est là, et on va quand même pouvoir boire du café et parler de sport.
Donc l'année dernière, il y a 2 ans, un petit peu plus d'un an on va dire, j'ai essayé de reconstruire la carrière sportive donc, de mon oncle, Wari, qui jouait, donc il y a un ancien joueur de l'ASS, dans les années 70, entre 70 et 73, il était au centre de formation de Saint-Etienne. avec Dominique Rocheteau, Rivelli, Aimé Jacquet, tout ça, toute l'équipe de l'époque, quoi. À la fois, ça a été l'un de ses passages les plus importants de sa carrière et en même temps le plus délétère, puisque mon oncle est né en 54 à Saint-Chamond, donc avant 1962, donc avant l'indépendance algérienne. Donc il est né français, mais en 1962, il redevient algérien, comme tous les Algériens qui étaient en France. Et à l'époque, dans les équipes professionnelles, il y avait des quotas de joueurs étrangers. Donc ils avaient le droit à deux joueurs étrangers. Donc tous les fans de Saint-Etienne connaissent Osvaldo Piazza et Ivan Kurkovic, qui étaient les deux étrangers de l'époque. Donc un Argentin et un Yougoslave. Après, on ne va pas rentrer dans les détails du marché du football, mais bon, en gros, c'était des étrangers qui coûtaient un peu moins cher. On allait beaucoup les chercher dans les pays de l'Est et en Amérique du Sud. Et donc arrive le moment fatidique où le président du club, donc de l'époque, avec l'entraîneur, donc Robert Herbin et Roger Rocher, convoquent mon oncle pour lui demander de prendre la nationalité française, en disant il faut que tu fasses partie de l'équipe 1, mais il faut que tu prennes la nationalité parce que y a les quotas, tu vas être soumis aux quotas et nous, voilà, il n'y a pas moyen. Et forcément, mon oncle il refuse. Parce que c'était en 73, donc 10 ans après l'indépendance. Et pour un Algérien, prendre la nationalité française à ce moment-là, ça avait une dimension à la fois historique, politique et symbolique qui était quasi impossible à résoudre, comme l'écrasante majorité des Algériens de l'époque. Donc il refuse de prendre la nationalité française. Et à ce moment-là, il y a des émissaires algériens qui viennent le chercher et qui l'amènent en Algérie pour qu'il fasse carrière là-bas. Et donc en fait là-bas il revient dans ce qu'on appelait la politique de retour. Je sais pas si ça vous parle, mythe du retour, où à l'époque on voulait faire revenir les Algériens en Algérie, mais on voulait surtout faire revenir les élites. Alors soit les ouvriers qualifiés dans un premier temps, et puis dans un second temps les élites sportives. Aussi parce que ça participait au rayonnement du pays, comme un petit peu l'équipe du FLN. En 1958, le FLN avait monté une équipe de foot, dans une optique politique et diplomatique, et pour faire un peu de la pub entre guillemets pour l'indépendance algérienne. Et donc dans cette même logique là, en fait, il y a l'Amicale des Algériens en Europe, donc il y a une association en France qui représentait l'État algérien, qui avait pour mission de faire revenir les Algériens. Donc il arrive en Algérie, donc c'est le premier footballeur algérien né en France à retourner, entre guillemets, je dis retourner, mais en réalité c'est la première fois qu'il allait en Algérie, à faire le chemin du retour, quoi, ce qu'on appelait le retour. Et donc ça se passe bien dans un premier temps, parce qu'il fait partie du championnat de première division, il fait partie de l'équipe nationale algérienne, il est recruté par Rachid Merkloufi, donc qui est aussi un ancien joueur de Saint-Etienne, algérien. Donc il revient, en fait il fait la saison 73-74 en Algérie. Donc il joue au MCO, qui est le Mouloudia Club d'Oran, gros club algérien. Donc je suis allé en Algérie chercher des archives, parce qu'en France, il y a un manque cruel d'archives, notamment sur mon oncle, qui est aussi une partie du mémoire sur l'invisibilisation justement de ces figures sportives qui ont refusé à un moment donné de jouer le jeu aussi bien d'un côté que de l'autre, et comment on les a effacés en fait de l'histoire du football. Et puis en fait, après, il y a des conditions matérielles un peu compliqué. L'Algérie est en pleine reconstruction, crise de logement, pas mal de choses à reconstruire suite à leur indépendance assez récente. Et puis bon, c'est compliqué, t'es né en France, t'es sociabilisé en France, tu te retrouves en Algérie, il avait 19 ans, à cette époque-là, il parlait même pas la langue. Bref, ça a été compliqué. Il décide de revenir en France, et puis là, au moment où il revient en France, il apprend que Saint-Étienne, donc Pierre Garonner, je peux le citer, de toute façon non seulement il y a prescription, en plus il est mort, et puis c'était vraiment un gros trou du cul, donc je pense qu'il faut le dire. Pierre Garonner, qui était le directeur sportif de Saint-Etienne et le premier agent sportif d'Europe, c'est lui qui a inventé le métier d'agent sportif, quoi. Et c'est un peu lui qui faisait la pluie et le beau temps à l'époque dans le championnat de première division français. Et quand mon oncle, donc on l'appelait Walish, je parle de lui, en fait c'était son surnom. Quand Walish revient en France, il démarche un peu les clubs, quoi, première division, machin et tout. Tout le monde lui dit non, on peut pas te prendre. C'est bizarre. Finalement, il atterrit dans un club de D2, à Montluçon, qui était plutôt un bon club de l'époque. Et on lui explique qu'en fait, Pierre Garonner a appelé tous les clubs pour leur dire de ne pas prendre ce Wari, qui était anti-français, qui avait fait le choix d'aller en Algérie et donc de rogner la France, en disant qu'il était indiscipliné, voleur. En fait, voilà, mon mémoire porte aussi là-dessus, sur ces assignations raciales, d'où elles viennent, héritage colonial, et j'essaye de démontrer qu'en fait, c'est pas arrivé qu'à mon oncle, que c'était même une pratique systémique dans les clubs de l'époque. Il repart en Algérie pour la saison 75-77, avec quand même une obligation derrière, c'est parce qu'il devait faire son service militaire. Même s'il est né en France, il y avait cette obligation de service militaire en Algérie. Ben, il y a deux droits en fait, qui s'opposent, il y a le droit du sol français, le droit du sang algérien, et bon, c'est un peu complexe. Mais voilà, et de 60 à 77, il revient en France, et il finira sa carrière en France de 77 à 86. Enfin bon, ça a été un parcours entre deux rives assez compliqué. Ça se passe pas très bien en Algérie, ça se passe pas très bien en France. Et comment, voilà, c'est ce que j'essaie de raconter, c'est comment il a vogué entre ces deux mondes, entre ces deux nationalismes qui ont instrumentalisé les sportifs, et d'un côté et de l'autre, et comment ils se sont retrouvés pris dans des enjeux politiques, symboliques qui les dépassaient complètement.
Salut! On fait des micro-trottoirs pour des gens qui n'ont pas de billets. Toi, tu voulais rentrer dans le stade ou pas?
Non, en fait, j'ai trouvé deux places pour mes gamins.
Hein?
Mais j'en ai pas trouvé une troisième pour moi, donc merde, j'attends merde. Mes gamins. Non, sinon, je viens pas lire un bouquin.
J'ai trouvé ça étonnant.
Bah ouais, ils sont à fond foot, donc...
Mais on est d'accord, il y a plein de gens là, ils regardent pas le match.
Bah je comprends pas en fait.
On est d'accord.
Ouais, je comprends pas ce qu'ils foutent là.
C'est chiant quoi.
Bah c'est con, ils prennent la... Enfin je sais pas, ou alors il y a plus de place à l'intérieur, je sais pas.
Ah ouais, mais bon... Ça veut dire qu'ils vendent plus?
Non.
Comme ça, ils font plus de thunes.
Non, je sais pas.
On essaie de faire partir une rumeur de complot, là, tu vois.
Ah ouais. Bon, voilà.
Bonne lecture.
Bonne soirée.
Ciao. Ouais, bonne soirée.
Vous êtes ni habillé en vert, ni au stade. Il se passe quoi, là?
Moi, je passe là, donc...
Ah, mais... D'accord. Tout le monde bosse ici?
Bon, voilà, quoi.
Non, on est venu voir les copains.
Il y avait des gens qui travaillent.
Mais vous, c'est pareil,
les gens qui bossent ici.
Alors ça, c'est pas une bonne question, ça. Parce que nous, on a pas de place. On a essayé de rentrer toute la première mi-temps, ça a pas marché.
Ouais, mais sans place.
On a essayé toutes les techniques.
Mais tu sais, pas en vert non plus.
Ouais, c'est pour ça que ça va marcher.
Ah ouais, je pense.
Vous avez pas des places, par hasard?
Non, désolé, je crois bien qu'on serait à l'intérieur.
T'as pas un truc de journaliste pour pouvoir rentrer?
Et non, alors c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. On n'est pas reconnu comme tel. Pour autant qu'on fait un travail journalistique de premier ordre, on n'est pas reconnu comme tel. Mais bon, c'est un autre débat.
En pratique, juridiquement parlant, tu avais le droit à la double nationalité. Mais dans la pratique, il y a plusieurs droits qui s'opposent. Il y a la nationalité étatique et il y a la nationalité sportive. Et en fait, les fédérations sont assez autonomes sur les conditions d'accès à la nationalité sportive. Et la fédération de foot, elle la conditionne à la nationalité étatique. Ce qui n'est pas le cas d'autres fédés. C'est un peu compliqué. Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'en gros... par exemple, la fédération du tir à l'arc, si tu étais un étranger qui vivait en France depuis un an, que tu pouvais justifier de ta résidence en France depuis un an, il te donnait la nationalité sportive, tu pouvais concourir pour l'équipe de France. Dans le foot... Ça ne fonctionnait pas. Il fallait avoir la nationalité étatique, c'est-à-dire en gros la nationalité française. Pour les Algériens, ça incluait une demande de réintégration à la nation française, puisque pendant la colonisation, l'Algérie était un département français. Donc à un moment donné, ils ont eu une nationalité française, une nationalité qui n'était pas tout à fait la même que les autres citoyens français. Ils n'avaient pas le droit de vote, etc. etc. Comme je disais tout à l'heure, ils l'ont perdue après en 62. Et donc... Officiellement, ils auraient pu avoir la double nationalité, mais les pays refusaient, aussi bien la France que l'Algérie. C'est beaucoup dans les discours politiques, médiatiques, où on disait en gros, tu choisis. Soit l'une, soit l'autre, tu peux pas faire double allégeance, notamment entre deux pays qui se sont fait la guerre pendant 132 ans. Effectivement, le foot, c'est l'une des fédés les plus restrictives là-dessus. Bah, c'est aussi parce que c'est le sport qui va générer le plus d'argent, qui est le plus médiatique, vraiment le foot spectacle, surtout à partir des années 80 avec l'ouverture sur le marché, etc. etc. Donc le foot, c'est un peu spécifique. Il y a une spécificité qu'on peut retrouver dans d'autres fédés, mais c'est vrai que le football, c'est spécial. Et ce chantage à la nationalité, bon, c'est comme ça que je l'ai appelé, il concerne beaucoup les Algériens, mais pas que. Et donc, du coup, je suis allé chercher d'autres témoignages de joueurs maliens, de joueurs camerounais à qui il est arrivé exactement la même chose. Quasi mot pour mot, avec tentative de décrédibilisation du club, etc., etc. Donc ça concerne surtout l'immigration postcoloniale. Mon oncle a joué avec Salif Keita, donc à l'époque, et il faut savoir qu'il est arrivé exactement la même histoire à La Panthère Noire. Donc voilà, Salif Keita, qu'on appelle la Panthère Noire à Saint-Étienne, il a eu un gros problème avec l'ASS, tribunal. Il a été suspendu pendant 6 mois parce que l'ASS a refusé de lui payer certaines choses clause de son contrat qu'ils n'ont pas respecté. À ce moment-là, il se retrouve à jouer pour l'OM. Donc en 72, il va à l'Olympique de Marseille, Salif Keita. Et l'Olympique de Marseille, en 73, lui dit exactement la même chose qu'ils ont dit à mon oncle. Tu prends la nationalité française, sinon tu ne pourras pas faire partie de l'effectif. Et Salif Keita refuse. Donc pareil, pour les mêmes raisons, en disant non, il est hors de question que je perde ma nationalité malienne. Je suis international malien. Il refuse, il part, il s'envole pour Valence. Donc il va jouer en Espagne et il ne reviendra plus jamais en France parce qu'il avait aussi perdu sa place en France. Donc en fait, Saint-Té, ouais, ils ont, en théorie, effectivement, ils vont te parler de Rachid Merkloufi. Rachid Merkloufi, c'était avant l'indépendance. C'était déjà un peu, il n'y avait pas ces questions de nationalité, même s'il est revenu après l'indépendance. Sur le papier, c'est génial, on a participé à faire venir des étrangers et tout ça. Dans la réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc dans ce que je suis en train d'écrire en ce moment, j'explique que c'est une pratique systémique de beaucoup de clubs, mais franchement, Saint-Etienne, c'est le haut du panier dans ce genre de pratique.
Moi, j'aimerais bien regarder le match. Toi, t'aimerais bien regarder.
Le problème, c'est que j'aimerais bien regarder le match des matchs de Saint-Etienne quand ils sont en Ligue 1.
Ouais.
Là, la Ligue 2. Mais là, ils vont repasser premier, là. Non ?
Ah, mais celui-là, 0-0. S'ils ne gagnent pas, ils ne passent pas devant.
Bah, si, ils sont classés combien ? Premier,
ils sont deuxième.
Ils sont deuxième, là.
Et ouais, s'ils gagnent pas.
Et là, ils jouent contre les premiers.
Regarde, c'est le moment. Là, tu prends une barrière, t'es dedans, là.
Franchement, tous les deux, on prend les vélos là, les vélivers, et tu me prêtes un gilet jaune, on y va.
Et après, moi, je me fais virer. Après, moi, l'argent.
Et oui.
Ouais, tu fais pas ça pour l'argent, on est d'accord.
Bah, si.
Ah, oui, merde.
Là, par exemple, je fais en sorte que tout se passe bien quand il y a les trams.
Ouais, les choses se passent pas bien ici.
Ouais, ça arrive que des gens essaient de traverser, et moi, du coup, je les chope. Je les chope par le cou.
Comme des chats.
Hein ?
Comme des chats ?
Ouais.
Par la peau du cou.
Ouais, c'est ça, exactement. C'est quoi ça... Comment ça s'appelle ? C'est comme les trucs, là, des micro-trottoirs, là.
Ouais, c'est un enregistreur.
Exactement. Tu peux dire que c'est vraiment bien, les micro-trottoirs ?
Ouais, c'est bien.
Voilà.
Ça dépend des fois.
Merci.
Ça dépend des questions que tu poses, ça dépend ce que tu dis.
Ça dépend des sujets.
Mais quand tu tombes sur des gens de qualité, c'est bien, tu vois.
Non, ça dépend des sujets, quand même.
Ouais, ça dépend des sujets. Ouais. Ça dépend sur quoi tu débats.
Mais c'est facile de dire ça. C'est facile.
Oui, mais à la fois, là, on parle normal.
Là, c'est bien, là.
Là, c'est normal, c'est chill. Tu fais du sport, toi ?
Ouais, un petit peu.
Ah ouais,
regarde comme il est habillé. Il est habillé normal.
Personne ne
s'habille comme ça dans la vie. Un peu, des
mais ça va, moi aussi, je fais du sport, tu me dis.
Non, non, pas du tout. C'est juste que là, c'est pas
un vrai sportif.
Ouais, on fait pas le sport toute l'année.
Voilà.
Il y a des moments où on est en pause.
Et
toi aussi, tu fais du sport.
Ouais,
c'est pas le moment.
Il
y a des gens qui rentrent en tremble.
Bon, pour les laisser.
De toute façon, ils attendent, quoi.
Ouais, voilà.
Juste, ils attendent. Après, c'est leur problème.
Ouais, voilà,
ouais,
c'est pas
ça partira.
C'est okay. Non, vraiment, c'est vraiment gentil.
Non, mais merci, on a passé un bon moment, en tout cas.
Je suis sûr
merci,
que t'attends.
Ouais, mais on se recroise bientôt.
Ouais, avec grand plaisir.
Courage.
Bon courage. Passe une excellente soirée.
Ah, et toi aussi, ouais.
Ouais.
Bon courage, ciao.
Pierre Garonner, c'est un personnage très particulier. Tous les fans de Saint-Étienne, on va dire, ils le connaissent. Il y a eu une histoire de caisse noire à Saint-Étienne. C'est Pierre Garonner qui est derrière. C'est vraiment un personnage particulier, quoi. Limite un peu mafieux du football de l'époque. Alors, je pense qu'il y avait clairement une raison raciste derrière. Scientifiquement, j'ai pas de quoi le prouver. Donc moi, c'est pas là-dessus que j'appuie, mais c'est aussi beaucoup économique. Comme j'expliquais, les Argentins, brésiliens et yougoslaves, tout ce qui est pays de l'Est, coûtait beaucoup moins cher. Donc pour faire respecter les quotas, on préférait aller choper un brésilien argentin qui était très bon, hein, au demeurant, Piazza, très bon joueur, les faire venir en France. Dans leur logique, ils disaient « Attends, le mec, il est algérien, il pourrait faire une demande de réintégration, on va pas le mettre dans les quotas, ça va nous faire perdre une place d'étranger, en fait. » Donc je pense que c'est aussi beaucoup une question économique, mêlé à tout un truc un peu raciste, hérité de la période coloniale. Je pense que c'est un bon mélange de tout ça, quoi. Puis après, les quotas, donc la question des quotas a quand même évolué. En 95, il y a eu un arrêt, ce qu'on appelle l'arrêt Bosman. C'est un joueur qui a réussi, en allant au tribunal, etc., à faire valoir le droit de la circulation des joueurs. Et donc à ce moment-là, en 1995, ils ont arrêté les quotas pour les joueurs européens. La raison officielle des quotas, c'était pour lutter contre ce qu'ils appelaient les mercenaires du football. Genre les mecs qui n'ont pas l'amour du maillot, qui viennent parce que voilà, on va leur proposer une grosse paye. Officiellement, c'était pour ça. Officieusement, clairement, c'était pour réguler le marché. Alors, ce que j'essaye de raconter dans mon mémoire, c'est que ça vient vraiment de la période coloniale. Pendant la colonisation, il y a eu l'émergence des clubs de football, donc en Algérie, où il y avait des quotas aussi, mais inversés. C'est-à-dire que les équipes d'Arabes avaient une obligation d'intégrer 5 joueurs blancs dans leurs équipes, dont 2 dans leur conseil d'administration. Il y avait aussi beaucoup une question de représentativité sur le terrain, etc. Donc ouais, c'est des choses qui viennent de loin. C'est beaucoup lié au capitalisme aussi, comme je disais, la circulation des joueurs, le prix des joueurs. Parce que quand ça a commencé, le marché africain a commencé à s'ouvrir, les joueurs étaient pas chers. Et là, je peux te dire que les Garonnaires et compagnie sont allés puiser. Il y a aussi une forme de néocolonialisme. Ils sont allés puiser les joueurs là-bas, les chercher, etc., machin, sous certaines conditions. C'est tout un monde, quoi.
Je les suis.
Vous les suivez plus ?
Non.
Pourquoi ?
Parce qu'ils sont en Ligue 2.
Ah, merde.
Moi, j'ai toujours aimé le foot. De là à dire supporter, ce sera un grand mot. Après, moi, je vais en Algérie suivre des matchs algériens, du championnat algérien, notamment des équipes où mon oncle a joué, où il y a un mouvement ultra très, très important. En Algérie, c'est un délire, c'est tout un monde. Par exemple, vous voyez le mouvement du Hirak, qui avait eu mouvement de révolte populaire qui avait eu en 2019, si je ne dis pas de bêtises. Tout est parti des stades, parce qu'en fait, en Algérie, dans les stades, c'est un peu particulier. C'est aussi là où l'expression politique est autorisée, où d'ailleurs toute expression est autorisée. Donc dans les clubs en Algérie, et ça vient aussi de l'héritage colonial dont je vous parlais tout à l'heure, l'émergence des clubs musulmans, on appelait ça musulmans à l'époque pendant la colonisation, c'était les indigènes quoi, c'est aussi fait en confrontation directe avec les clubs français, et il y avait tout un esprit nationaliste, indépendantiste et révolutionnaire qui était véhiculé à travers les clubs de foot algériens. Et cet héritage, ils l'ont gardé. Et donc les clubs, c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup les mouvements ultra-algériens, les clubs ont gardé ce truc-là, et donc l'expression politique part souvent des clubs de foot. Et donc il y a vraiment, c'est vraiment tout un monde, limite parallèle, mais que toute l'Algérie connaît, quoi. La dernière fois que je suis allé à l'ASS, enfin à Geoffroy Guichard, voir un match, hein, c'était en 1993, Saint-Étienne OM. Je me rappelle, il y avait Rudy Voleur qui jouait à Saint-Étienne, à Marseille, pardon. Saint-Étienne perdait 3-0 et c'est parti en couille de ouf, grosse bagarre dans les tribunes. J'étais petit, hein, moi, en 93, je devais avoir, je sais pas, j'avais quoi, 6 ans, 7 ans. Je me rappelle, j'avais ma barquette de frites avec mon ketchup qui a volé en l'air. Et gros mouvement de foule, mon père m'a attrapé, et mon oncle, et voilà, et on est parti. Et mon père m'a dit, c'est bon, je te ramène plus là-bas, c'est trop chaud.
La machine à découdre, un point de vue décousu sur le 89.5 de Dio et sur radiodio.org. Cette histoire de barquettes de frites qui volent, ça nous donne faim. Ça tombe bien, à Tarentaise, c'est frites en fête. 5 jours de spectacle et d'odeurs de frites dans tout le quartier. On va avoir le spectacle Friterie Mon Ami par une compagnie du Nord, Bonjour Désordre. Il paraît que ça parle de foot et qu'à la fin, on peut manger des frites.
Vous allez regarder le match ? Non, parce que nous, ce soir-là, quand on va au stade de Lens, eh ben on n'a rien vu du match. Et en fait, dans le stade, personne ne regarde le match. Tout le monde est venu voir la tribune Marek, le cœur du stade, celle des supporters ultra, qui eux aussi ne regardent pas le match. Ils regardent le chef des supporters ultra, qui lui aussi ne regarde pas le match. En fait, dans le stade, personne ne regarde le match. Tout le monde est venu voir la nuée d'écharpes, le sang et l'or. La tribune Marek, il chante, il louange, il prie la ferveur. J'arrive à partir en déplacement avec eux. Je vais à Brest. J'ai 10 heures de route aller, 10 heures de route retour, plus 4 heures de match à peu près. Ça fait 24 heures pour faire copain-copain et me faire inviter en tribune Marek à Lens.
Alors, je vous la fais courte. Hein. César, il pense que s'il fait un petit tour en minibus avec les supporters, il va réussir à se faire inviter à la tribune ultra privilégiée, la Marek, où t'as un abonnement de père en fils, de mère en fille depuis des millénaires.
Mais bien sûr, j'y crois. Bien sûr, j'y crois. Mais ça va pas se passer du tout comme ça. Il est 8h du matin, j'arrive au rendez-vous. Le premier supporter ultra vient me voir, il me dit trois choses. Bonjour, bienvenue, tu peux venir en déplacement avec nous, mais on va pas à la marée comme ça. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Je pars quand même en déplacement.
Voilà.
Et là, c'est la première fois que je vois FDL, Fred de Liévin, le supporter ultime. On y fait 400 déplacements en autostop pour regarder le match partout en France, en Europe, dans les yeux des autres. Mais comme personne ne regarde le match, FDL, il fait le tour du monde pour pas regarder le football. Hein, franchement, quoi. Et donc, mais comme personne ne regarde le match, FDL regarde le foot avec son dos. Lens, 13 grands chelems. Ça veut dire que pour 13 années, il a vu tous les matchs de Lens, à domicile et à l'extérieur, avec son dos. Lens, nous sommes les ultras de Lens, partout on chantera.
Sous le soleil et avec vue sur les crassiers, on écoute le spectacle. On l'écoute plus qu'on ne le regarde, puisqu'on a choisi les places du fond de la classe. Enfin, du fond du City Stade, où tout ça se déroule. Et, en journalistes peu scrupuleux que nous sommes, une fois qu'on a capturé les sons qui nous intéressaient, on se met à rêver de ballons ronds. Puis on se dit que si on nous voit ici, sous les banderoles aux couleurs du RC Lens qui flottent au-dessus du parc Jean Ferrat, c'en est fini de notre crédibilité au chaudron. C'est pas comme ça qu'on risque d'obtenir une place pour le match. Alors on retourne à GG. Mais ce qu'on a retenu du spectacle, c'est que la première étape d'intégration auprès des ultras passe par un déplacement. On se débrouille donc pour obtenir un rendez-vous avec une personne qui peut nous aider dans cette mission.
Mon boulot, c'est chauffeur d'autocar. Et du coup, par ce biais-là, ça m'arrive assez régulièrement de transporter les ultras de Saint-Etienne, notamment les Green Angels, aussi de temps en temps un peu les Magic Fans. Chacun dans son car, même chacun dans ses cars, parce que c'est en général il y a plusieurs cars. Cette saison, c'est pas arrivé une seule fois qu'on se déplace avec un seul car par groupe. C'était minimum 2 cars par groupe, et plus souvent c'était 3 voire 4. On a déjà eu fait 5 quarts par exemple match à Grenoble, il y avait 5 quarts de Green Angel plus 6 quarts de Magic Fan. Il y avait du monde, ouais. Il y a quelques déplacements comme ça où quand on n'est pas limité par la taille des parkages, il peut y avoir beaucoup de monde qui se déplace. Le parkage, c'est la partie des stades adverses qui va être la partie des stades qui va être allouée à l'équipe adverse qui vient jouer. Donc nous, quand on dit qu'on se déplace en parkage, c'est que je sais pas, on va jouer au Mans et qu'on se déplace dans le parkage du Mans. C'est une sorte de gros enclos, hein, parce que au final maintenant c'est tellement sursécurisé que en général tu es entre des grilles immenses, des filets avec 40 000 stadiers autour de toi. Mais voilà, ça a quand même son charme.
Est-ce que tu peux nous raconter comment ça se passe un déplacement? C'est quoi l'ambiance?
Quand tu arrives le matin, déjà en général, on se retrouve sur le parking de Geoffroy Guichard. Et tout de suite, tu vois que tout le monde ouvre la parenthèse de son week-end, c'est-à-dire va être pleinement investi dans le déplacement. Ça va être un relâchement total sur le reste de sa vie, son boulot, sur ses occupations, ses problèmes. Ça a beau être 3h du matin, des fois, c'est déjà la fête, quoi. Il y a tout de suite l'ambiance dans le bus, on va dire. Les enceintes saturent de la première minute jusqu'à la dernière minute. En fonction des déplacements, l'intensité n'est pas toujours la même. Parce que quand on fait des déplacements, des fois, où on fait 11 heures de route à aller, 11 heures de route au retour sur 48 heures, c'est beaucoup quand même. Enfin, sur moins de 48 heures, hein, des fois même, souvent. Donc je les amène. Après, en général, on va toujours d'abord jusqu'à l'escorte. Donc ça veut dire que si on va jouer à 3, eh ben, on va devoir s'arrêter 30-40 km avant pour que là, il y ait une compagnie de CRS, voire deux compagnies de CRS qui nous attendent et qui vont nous escorter sur la route. Donc justement, c'est censé limiter le risque d'affrontement, le risque de caillassage, tout ça. Mais en fait, dans la réalité, on se rend compte que souvent, on tombe face à des policiers qui font exprès de provoquer les groupes d'ultras, parce que bon, eux, ils se disent, s'il y a bien des personnes sur qui on peut taper sans que personne nous dise rien, c'est les ultras. Donc souvent il y a un peu de provocation, et puis forcément il y a de l'animosité entre les deux, hein, entre les ultras qui, à force de répression, peuvent plus blairer les forces de l'ordre, et les forces de l'ordre qui voient dans les ultras des bons moyens de se défouler. Après, en général, les escortes se passent quand même bien, mais on voit souvent des provocations de la part de la police auxquelles les ultras sont obligés de ne pas répondre s'ils veulent pas se faire allumer non plus derrière. Mais donc en général, on arrive à l'escorte, on attend du coup à ce moment-là que tous les groupes soient arrivés. On fait plus ou moins la même route, mais on part pas forcément aux mêmes horaires, on passe pas exactement forcément aux mêmes endroits. Du coup, si on arrive en premier, par exemple avec les Green Angels, on va attendre que les cars des Magic arrivent au point d'escorte. On va attendre que les cars des IS, donc les indépendantistes stéphanois, des supporters non ultra, arrivent aussi. Et c'est que quand il y a tous les cars et tous les minibus que là, tout le monde se déplace en cortège. En général, c'est t'as un quart, un fourgon de keuf, un quart, un fourgon de keuf, un quart, un fourgon de keuf, et ça se passe comme ça. Et là, tu arrives directement derrière, ils t'emmènent directement en parkage, donc dans le stationnement du parkage du stade, pour que les cars soient censés être un peu en sécurité et que l'accès au stade soit facile. En général, surtout ces dernières années, il y a toujours des interdictions de la part des préfectures pour les supporters d'aller dans les villes, voire des fois dans les départements dans lesquels ils vont jouer. Enfin, dans lesquels leur équipe va jouer. Après, on arrive au stade, et le temps que tout le monde rentre, moi tranquille, je ferme mon bus, je vérifie que tout va bien, et puis après, ouais, je peux rentrer. Quand on est chauffeur, on peut rentrer. En général, c'est la sécurité de la SSE qui fait en sorte de nous faire rentrer. Quand il y a l'opportunité de le faire le plus express possible, c'est-à-dire aller au match, voir le match, revenir, ça va quand même plus souvent opter pour ça. Parce que faut se dire que quand même ça prend beaucoup de temps à chacun sur sa vie personnelle. Quasi tout leur week-end, ils le passent essentiellement avec leur groupe d'ultra. Et donc forcément des fois, quand on peut essayer de rentrer plus tôt ou pas partir trop tôt justement, on essaye de passer quand même un peu de temps chez soi, avec sa famille ou à faire d'autres choses quoi.
On fait une émission de radio sur les gens qui vont pas au stade.
Qui vont pas au stade ?
Ouais. Comment ça se fait que vous soyez là et ça se passe là-bas ?
On est au stade,
c'est quoi ? C'est une magnifique surprise.
Mais non.
Vous avez des places ?
Quoi ? Vous avez des places ?
Oui, on a fait
quelques prières.
Vous avez deux places ?
Vous nous les filez ?
Ah, je sais pas ce que je pense que tu peux pas.
Ouais, mais tu sais, on négocie, tu vois. On dit, vas-y, ça passe pas, je sais pas quoi. Mais au moins, c'est des vraies places. Parce que là, depuis tout à l'heure, on essaie de rentrer, ça marche pas, toi.
Merde. Et là, vous êtes sorti à quelle minute ?
Il y avait 45
là, on vient, ouais.
Il y avait combien
à la mi-temps, ouais. Il y avait combien 0-0.
Ah, mais quoi, un tour en annuaire, quoi. Attends, hein, là, ça va remonter en Ligue 1.
Ouais, ça va. Hein.
Ouais, mais du coup. Ouais. Après, on est abonné, donc on est là tous les matchs. T'enregistres là ?
Ça, c'est des bons. T'as vu, on va pas commencer. Va falloir vous concentrer, les gars.
Waouh.
Allez, c'est parti.
Et alors,
attends, c'est quoi la radio ?
Radio Dio,
tu connais ?
Non, c'est Stéphano ?
Ouais, Radio Sessi.
Yeah, j'aime bien.
Après,
il n'y a pas de DA dans l'interview, c'est genre.
Ouais, c'est un peu.
C'est un podcast en tram.
Tu vois bien, ouais, c'est un peu.
L'analyse
de la première mi-temps, on est chaud.
Qu'est-ce que j'en pense ?
Et juste avant, vous êtes au courant qu'il part pas avant la fin du match.
Ah ouais,
mais c'est ce que je disais.
Ouais.
Ah, voilà.
Mais on vous le dit comme ça parce que vous avez un anniversaire surprise et vous le match avant.
Tu sais que là.
Ou si vous restez dedans, c'est un peu chaud.
Les secondes sont comptées là.
Ouais, mais là, c'est fermé à clé de toute façon.
De toute façon, on peut plus sortir.
Ah ouais,
c'est fini. En fait,
il y a un médiateur là.
Ah, mais il est juste médiateur, il est pas ouvert de port.
Le vrai tramway, c'est après.
Moi, je veux des pronostics. Combien ?
Pronostics, combien ? C'est engagé là.
1-0.
Il y a 3000 personnes.
1-0 au mieux.
Pour 3 ?
Non, pour Saint-Etienne.
Comment ça, t'es
pour 1-0 pour Saint-Etienne au mieux. Grosse possession en première mi-temps, pas vraiment d'occasion franche. 3, on sent que dès qu'ils ont le ballon, s'ils font une attaque, ils marquent. Comme dans tous les matchs, finalement, dès qu'on prend un but, c'est ça.
Il est fort.
Il part à la fin du match, il part. C'est qu'à la fin du match. C'est un peu embêtant quand même.
Ouais, c'est un petit peu, ouais.
Il n'y a pas de trêve.
Vous allez attendre longtemps.
Vous avez l'air ok pour attendre.
Pourtant, on avait privatisé et tout.
Ouais, t'as bien fait.
Ah, c'est quoi ? Vous avez pas un Instagram ou un truc sur la radio ?
Et Sacha, elle avait des choses à dire sur le premier.
J'ai rien à dire. On a eu beaucoup de corners et beaucoup de corners échoués, hein, ça c'est sûr.
Ah ouais, mais bon. Il faudrait un bon tireur de corner.
Ouais, hein, on se pose la question. Hein, ils essayent à deux, ils essayent pas à deux.
Ils ont fait un de combinaison.
Ouais. Ouais. Non, ils ont essayé, ils ont essayé.
Et tu penses qu'en deuxième mi-temps, ça sera mieux ?
Bah, j'espère. J'espère, pour l'instant, c'était quand même bien parti, mais...
Moi, j'ai une question aux journalistes. Pourquoi vous êtes pas au stade alors que vous êtes stéphanois et que vous connaissez
une bonne question. La vraie réponse, c'est qu'on n'a pas de place.
Et du coup, c'est une excuse pour faire l'émission.
Mais du coup, on s'est dit que c'était pas mal aussi, tu vois.
C'est mignon, c'est
bien. Ouais.
On est bien, en plus.
On est bien. On passe une bonne soirée, tu vois.
C'est cool.
Mine de rien.
Est-ce que c'est pas ça, Saint-Té ?
Ah oui, mais là, c'est la mi-temps. Je me disais, il y a plein de gens sur les...
Ils
font la grève du stade, c'est fini.
Vous habitez.
Il va falloir y aller, les frères, parce que là, là c'est trop tard. Là.
Bon, on y va.
Les gars,
à plus.
Là, on y va à pied.
Courez, courez. J'ai un vélo si vous voulez. On sait jamais.
Je les ai adorés.
Ils sont géniaux. Ouais, hein. Super.
Faut le dire, hein, c'est quand même relativement coûteux, hein. Mine de rien, louer des véhicules toutes les deux semaines, des autocars, surtout que les autocaristes font gonfler un petit peu les prix, parce que même si c'est des clients fidèles, bah, quand c'est la fête dans le bus de A à Z sur le trajet, il y a beaucoup de chauffeurs qui veulent pas faire les ultras. Déjà, il n'y a pas beaucoup de transporteurs qui veulent bien faire des groupes ultras. Des groupes de supporters plus calmes, on va dire, normalement il n'y a pas trop de difficultés, mais des groupes ultra un peu moins. Plus, bah, en fait, tout simplement, un voyage en autocar, c'est cher. Pour faire tous les déplacements, en moyenne, un ultra, il dépense à peu près 90 balles pour le transport, à chaque déplacement. Donc à peu près toutes les deux semaines. Ça représente quand même une petite somme, hein, de se déplacer, de supporter son équipe, de supporter son groupe aussi, parce que ça, c'est un truc quand même assez important à voir et à comprendre, c'est que le groupe ultra de supporters... Il se déplace autant pour le groupe que pour le club, voire même clairement beaucoup plus pour le groupe, pour ce qu'ils arrivent à créer ensemble comme lien, comme animation, comme moment quand même précieux pour chacun de ses supporters, quoi.
Est-ce que c'est bien payé, chauffeur de bus, et puis globalement les conditions de travail? Et ma deuxième question, c'est est-ce qu'avec la dissolution des groupes ultra, tu vas te retrouver au chômage?
Chauffeur de bus, que tu sois en bus urbain ou en bus longue distance, tourisme, tout ça, en vrai, c'est pas bien payé. Parce que, enfin, quoi qu'il vaut mieux être chauffeur en bus urbain, parce qu'au moins tu fais tes 35 heures et tu te casses, quoi. Et t'as ton salaire à la convention collective, c'est pas énorme, mais au moins tu. Par contre, quand tu fais du long déplacement, là, c'est très mal payé. Parce que, en fait, il y a beaucoup d'heures où tu te retrouves à pas être dans ton véhicule et du coup, à pas être vraiment payé. Être des fois payé qu'à 50%, mais seulement avec un certain forfait d'heures maximum. Donc, en fait, de manière générale, tu n'es quand même pas très bien payé quand tu es chauffeur de bus par rapport à l'investissement que tu donnes sur ta vie sociale, sur tout ce qui tourne dans ta vie en dehors du travail. C'est quand même un travail qui est très, très annihilant au niveau de ta disponibilité et du coup, forcément, de ta sociabilisation, de ton lien avec ta famille, avec tes potes. Donc, c'est pas super bien payé. Après, les déplacements d'ultra... C'est un petit peu mieux payé parce que du coup, tu as une petite prime. Vu qu'il y a très peu de chauffeurs qui veulent le faire. Alors très clairement, moi, je le fais pas pour ça. Mais je sais qu'au départ, ça peut aussi être une... Il y a certains chauffeurs qui le font clairement parce que c'est aussi bien payé, quoi. Mais voilà, c'est pas... Tu fais pas non plus ça pour rouler sur l'or. Faut quand même avoir envie de le faire. Bah, en fait, un déplacement d'ultra, c'est un week-end toutes les deux semaines. Donc, le reste du temps, je fais bien d'autres choses. Je fais des voyages, je fais du scolaire, je fais du tourisme, enfin, tout ça. Des fois, je peux être rebalancé quand il y a moins d'activité sur du bus urbain. Parce que moi, je suis dans une PME qui a plusieurs activités, qui a plusieurs casquettes. Et les ultras, ça a beau être une bonne activité qui est là toute l'année et depuis des années, c'est clair que ça, j'imagine, ça ne mettra pas la trésorerie de ma boîte à l'aise si tout ça s'arrête, mais ça ne menacera pas non plus nos emplois directement, quoi. Alors moi, de base, quand je suis arrivé à Saint-Etienne, j'aimais pas du tout le football. Et j'aimais pas du tout cet univers-là. C'était presque repoussoir pour moi. Surtout que j'avais grandi en périphérie lyonnaise. Donc je vous dis pas, c'était pas la même mentalité. C'était pas non plus les mêmes valeurs. Et en arrivant à Saint-Etienne, de par le milieu militant, on va dire, et associatif, j'ai commencé à m'intéresser un peu à ce que faisaient les ultras. bah, notamment avec leur animation spectaculaire, avec leurs initiatives de solidarité, avec leur investissement dans la vie associative et politique de Saint-Étienne. Et du coup, c'est par là que j'ai commencé à m'intéresser aux tribunes ultra de Saint-Étienne. Derrière, et ben forcément, j'y suis allé 2-3 fois. Et puis là, à ce moment-là, je fais ah oui, c'est vrai qu'ils sont en train de regarder du foot, donc je regardais aussi. Et puis derrière, voilà, je me suis aussi intéressé plus largement à la SSE. Mais c'est vrai que le premier truc qui m'a attiré, moi, c'est d'abord les ultras, hein, plus que le football. Même si c'est pour du football, où tu partages des sensations fortes. Que tu aies gagné d'une victoire éclatante en ayant fait 20 heures de déplacement en véhicule, ou bien que tu te sois pris une branlée à Brest, et ben dans tous les cas tu reviens, il s'est passé des émotions fortes, et c'est quand même un truc que tu partages avec eux, et ça peut avoir tendance à rapprocher et à nouer des bons liens. Donc les Magic Fans, ils sont créés en 91, et ça regroupait des supporters, on va dire, sur un territoire beaucoup plus large de toute la Loire, tout le département, voire toute la région. Donc avec des gens de Saint-Étienne aussi, hein, mais en tout cas aujourd'hui c'est encore ça, c'est un groupe qui est plus large en termes d'étalement, alors que les Green Angels, c'est majoritairement des gens qui sont quand même plus concentrés sur Saint-Étienne, en tout cas pour le noyau dur. Et du coup, t'as un peu des sociologies différentes entre les deux. T'as aussi, on va dire, deux visions en termes de monde ultra. Les Magic Fans, eux, ils sont vraiment dans une volonté de supporterisme très apolitique, qu'il y a vraiment tous les horizons politiques. Les Green Angels, eux, ils sont apolitiques aussi, dans le sens où ils sont pas là pour faire de la politique. Il n'empêche que ils sont pas non plus contre mettre un peu de politique au moment où ils sentent qu'il y en a besoin. C'est assez régulièrement qu'on les retrouve dans des dynamiques de solidarité dans la ville, qu'on les retrouve dans des dynamiques antiracistes, que ce soit en tribune ou à l'extérieur.
Et est-ce qu'il y a des meufs ultra ?
Ouais, carrément. Déjà, j'aimerais dire de plus en plus, même si on peut être frustré qu'il n'y en ait pas beaucoup. Après, c'est pas forcément du fait des meufs, c'est vraiment du fait des gars qui leur laissent pas forcément beaucoup de place non plus. Mais justement, ça, c'est quand même pas mal en train de changer. Il y a des meufs qui ont des responsabilités chez les Greens, quoi. Et ça, il y a beaucoup de groupes ultra dans toute la France, encore aujourd'hui, où c'est pas du tout le cas. Je pense qu'il y a plusieurs déplacements où tu as presque 10% de proportion de meufs sur le déplacement. Je pense qu'il y a quelques années, c'était loin de ça. Donc, c'est toujours pas une majorité. Mais tu sens qu'il y a une place qui est de plus en plus donnée pour les femmes dans le monde ultra, et qui sont en train de se faire petit à petit, et espérons que ça continue.
Est-ce que tu peux nous dire un mot des slogans homophobes, sexistes ou quoi potentiellement que t'entends, ou de l'image qu'on peut avoir du stade ?
C'est sûr qu'il y a du chemin à faire, mais ça m'est arrivé plusieurs fois d'être agréablement surpris de voir par exemple des chants évoluer, notamment en parkage, parce qu'en fait des fois c'est compliqué de commencer à faire changer un chant à domicile. Parce qu'en fait, en plus du noyau dur du groupe qui commence à lancer le chant, en fait, t'as plein de gens qui suivent derrière, et du coup, c'est compliqué des fois de leur faire changer les chants. En fait, il y a un vrai sujet sur la manière dont c'est récupéré par les autorités publiques, par le ministère de l'Intérieur, par des députés qui font leur beurre sur la prétendue lutte contre l'homophobie, alors qu'il n'y a pas plus homophobe qu'eux. Et en fait, il y a ce truc de vouloir montrer les supporters comme des bêtes, et de vouloir les brider sur ce qu'ils disent, ce qu'ils chantent, etc. Et la manière dont c'est fait, eh ben c'est là où c'est assez tragique, c'est que du coup, il y a beaucoup de supporters qui vont dire en fait, c'est liberticide, donc on va continuer de le dire. Et du coup, ça vient pas sur le vrai sujet de pourquoi c'est pas bien de le dire, et pourquoi ce serait bien qu'on trouve autre chose. Donc il y a des choses qui bougent, mais je pense qu'elles bougent pas assez vite de par la manière de réprimer ça. Voilà, de la part des autorités publiques. Parce qu'après, par contre, les personnes concernées, elles sont complètement en droit de pouvoir le réprimer quand même. Alors, si elles veulent mettre des pieds-bouches, je pense que ça sera légitime. Mais enfin, disons qu'en fait, en plus, individuellement, surtout chez les Greens, il y a des valeurs d'acceptation, d'ouverture d'esprit qui sont quand même assez fortes. Et du coup, c'est assez tragique de les présenter comme des groupes bourrins homophobes, alors qu'en vrai, en dehors du stade, et en fait, pour la plupart, c'est pas le cas du tout. Et c'est clair que du coup, espérons que ça change un petit peu, mais en vrai, je me fais pas trop de soucis. Voilà. Surtout sur
sur les nouvelles générations qui vont commencer à prendre un peu les manettes. De toute façon, les groupes ultra, ils ont toujours été amenés à évoluer au fil du temps, mais ils évoluent pas sous la contrainte. Ils évoluent d'eux-mêmes et ils sont en général suffisamment intelligents collectivement pour le faire.
Et là, en fait, on a essayé par plein de petits contacts de parler avec des ultras et ils veulent pas nous voir. Est-ce que tu sais pourquoi est-ce qu'ils ont aussi peur de nous ?
Bah, en vrai, ça s'explique pour de plusieurs trucs. Donc après, pareil, comme je vous dis, moi, je suis entre guillemets que chauffeur, même si je les connais bien. Je suis pas forcément le plus à même de parler de tout ça, mais déjà, pour moi, il y a des notions claires qui sont déjà le côté répressif. Il y a une grande répression des milieux ultra, que ce soit sur la surveillance, le fichage, que ce soit même la répression physique au moment des matchs. Et donc, en fait, des ultras qui s'expriment, ça crée toujours des mines d'informations pour les services de renseignement généraux, qui les flics, qui les surveillent. Après, je crois qu'il y a aussi une méfiance de la manière dont souvent sont mis en lumière les ultras, parce qu'en fait, il y a aussi un postulat de « nous, on ne fait pas d'interview, on ne parle pas », parce qu'en fait... quand on le fait, ce qui va être gardé, ça va être 10 secondes pour mettre en lumière le fait qu'on puisse être violent, pour mettre en lumière le fait qu'on puisse faire des dégradations. Et donc, comme pour d'autres personnes, d'ailleurs, comme pour des militants politiques, on va dire, le problème, c'est que à partir du moment où tu réponds à des interviews, à des sollicitations, tu maîtrises pas et que t'es pas complètement maître de ce qui va être utilisé de ta parole. Et là, les supporters, ils disent nous, du coup, notre parole, on la garde pour nous. Et quand on voudra l'exprimer, on l'exprimera de nous-mêmes. Et puis, il y a peut-être aussi une autre notion de, c'est des groupes qui cherchent pas à être sous le feu des projecteurs, quoi. Enfin, mis à part dans le cadre du stade, je pense qu'ils ont pas envie que le milieu ultra se gentrifie et que du coup on érige un truc très visible qui fait des interviews qui fait des sollicitations commerciales. De base, un des grands combats des ultras, c'est quand même contre le foot business, et je pense que du coup eux, ils ont pas envie d'être de devenir un produit de curiosité, de consommation, tout ça quoi.
Ça va?
Ouais, c'est une émission.
Ouais, on fait une émission, tu connais Radio Dio? Radio Audio, la radio associative de Saint-Étienne, je connais. 89.5.
Pas du tout.
On fait une radio associative, nous on fait une émission qui s'appelle La Machine à des coups. Et là on s'est dit qu'on faisait sur le stade.
D'accord.
Et comment ça se fait que tu sois pas dans le stade, toi?
Ouais, j'ai pas envie d'y aller.
Ah ouais? Pourquoi?
Il fait beau, on est bien.
Je suis d'accord qu'on est mieux ici, tu vois. Tout à l'heure il y avait le coucher de soleil tranquille.
Y'a pas de caméra?
Non, oula, caméra, jamais.
On est là parce qu'on est interdit.
Ah, mais d'accord.
On est là parce qu'on n'a pas le droit d'y aller.
Tout à l'heure, on a vu, il y avait une grosse embrouille là devant.
Ouais, mais ça, c'est pas de notre ressort. Nous, on est les Magic fans, Green Angels, ce qui se passe.
Ah oui, là, c'est côté Green. Ouais.
Côté d'où? Côté de Saint-Etienne?
Ouais, moi, j'habite à Saint-Etienne, ouais. Après, je viens au stade de temps en temps, mais... Et t'es interdit jusqu'à quand? Pas trop longtemps, j'espère.
Un moment. Ça sert à nous le regarder dedans, s'il y a un but, de toute façon, tout ça.
Ouais, alors. Je suis d'accord. Ah, ils vont monter en Ligue 1 cette année, quand même. Normalement,
on verra.
Si tout se passe bien. Et ils veulent toujours dissoudre les Greens et les Ultras?
Apparemment.
C'est pas possible, ça.
On dirait pas mieux.
Et de l'asbeul, les gens, ils vont se révolter.
Je sais pas.
Pour faire un truc pareil.
Je t'en dirais pas mieux.
Et tout à l'heure, on discutait avec un pote qui nous disait, il nous parlait de Grenoble. Il nous disait, les keufs ont tendu un guet-apens au supporter. Toi, t'avais pas ça?
Au courant.
Ok. Bon, non, mais t'inquiète, t'as pas rien à dire. Mais moi, ça m'a choqué ce qu'il m'a raconté.
Pas au courant du tout.
J'étais dégoûté.
Vous êtes au courant? Apparemment, c'est un guet-apens à Grenoble, moi, je suis pas au courant.
Les keufs? Non, t'es pas d'accord. Ok.
On a une ligne de conduite, pas au courant.
Ouais, non, mais c'est bien. C'est très bien, je comprends. Ça me rassure, tu vois.
T'as-tu des trucs, mais on sait pas.
Okay.
C'est con, hein.
Ah non, mais c'est bien.
Ah, on essaie de se tenir informé, mais merde.
Ça me rassure.
On a jamais les bonnes infos.
Ah bah tiens, bizarre.
Pourquoi, t'es de la police?
Non, nous on fait une émission bénévole. Et le pronostic pour ce soir?
Ah, quand même, pas le foot. Pas au courant.
On aimerait le foot, est-ce qu'on serait supporter de Saint-Étienne?
Bah, c'est vrai, t'as raison. Bah, oui.
Voilà.
Mais oui, t'as bien raison. Ils sont contre qui ce soir?
Bastia, non?
Ouais. C'est pas Le Mans?
Non, c'est Bastia.
Ah bon?
Je pensais que t'as Annecy.
Écoute-les, les champions. Non, mais t'as raison, t'as raison. En vrai, il faut.
Fugo, tu fais des podcasts.
Ouais, nous on fait des émissions, après ça devient des podcasts.
Et Fugo, tu cours et tu fais des podcasts.
Ouais, je fais
des...
je cours et puis.
Malheureusement, tu fais pas les deux en même temps, t'en chierais.
C'est un peu chiant. Ouais. Les gens ils courent pas aussi vite que moi du coup.
Non, parce qu'au même moment, je t'ai vu passer tout à l'heure en rouge. Et qu'est-ce qu'il fait, ce marteau?
Qu'est-ce qu'il fait quoi, t'as dit?
Smarto.
Smarto, oui, d'accord.
Ah, wow. Méchant,
hein. Non, t'inquiète. Bah non, mais tu vois, nous plus, on aime bien l'ambiance devant le stade et tout. D'accord. On n'a pas réussi à avoir de place, mais on s'est dit que ce serait bien devant le stade, quoi. Bon, mais non. Profitez bien en tout cas. Bonne soirée.
Je pense que l'interview elle est pas très construite.
T'inquiète.
Donc les Magic Fans, sont, eux, ils sont créés en 91 et ça regroupait des supporters, on va dire, sur un territoire beaucoup plus large de toute la Loire, tout le département, voire toute la région. Donc avec des gens de Saint-Étienne aussi, hein, mais en tout cas aujourd'hui c'est encore ça, c'est un groupe qui est plus large en termes d'étalement. Alors que les Green Angels, c'est majoritairement des gens qui sont quand même plus concentrés sur Saint-Étienne, en tout cas pour le noyau dur. Et du coup, t'as un peu des sociologies différentes entre les deux. T'as aussi, on va dire, deux visions en termes de monde ultra. Les Magic Fans, eux, ils sont vraiment dans une volonté de supporterisme très apolitique. Il y a vraiment tous les horizons politiques. Les Green Angels, eux, ils sont pas là pour faire de la politique. Il n'empêche que ils sont pas non plus contre mettre un peu de politique au moment où ils sentent qu'il y en a besoin. C'est assez régulièrement qu'on les retrouve dans des dynamiques de solidarité dans la ville, qu'on les retrouve dans des dynamiques antiracistes, que ce soit en tribune ou à l'extérieur. Comme dirait n'importe quel ultra, personne n'est en recherche de violence. C'est juste que à partir du moment où la violence vient à nous, entre guillemets, ils savent se défendre et ils essayent d'y répondre. C'est souvent des images qui sont renvoyées vers les groupes d'ultra, mais en fait c'est souvent des raccourcis qui sont bien loin de la réalité. Je mets quand même le sujet lyonnais entre parenthèses, c'est un peu différent, mais là l'histoire elle est bien plus vieille que les ultra. Déjà à l'époque de l'ère industrielle, ça n'aimait pas trop les lyonnais. Mais sinon, de manière générale, il n'y a pas de volonté d'aller provoquer des affrontements. Il y avait eu des Stéphanois qui avaient croisé des Lensois sur la route. Et là, il y avait eu plein de vidéos qui étaient sorties, comme quoi ça avait cherché à s'affronter, que ça avait cherché à s'attraper, tout ça. Mais en fait, et d'ailleurs, c'est des points qui ont été dénoncés par le ministère de l'Intérieur dans ces nouvelles menaces de dissolution des groupes ultra de Saint-Étienne. Mais en fait, quand on est dans la réalité du truc, quand on est chauffeur de bus et qu'on conduit le car, on voit une toute autre réalité qui est que, très concrètement, on est passé à un endroit où il y avait des Lensois qui attendaient les bus de Lensois et nous, on devait récupérer des Stéphanois au même endroit. Donc ça, la faute a pas de chance, j'ai envie de dire. Vu qu'on était stationné et qu'on pouvait potentiellement être cible, ils sont préparés à pas subir une attaque de Lensois qui voudrait potentiellement en découdre. Mais en fait, il s'est passé une chose toute simple, c'est que le quart des Lensois est passé, personne n'a voulu s'affronter et que il n'y a pas eu d'affrontement ni rien. Et derrière, chez le ministère de l'Intérieur, ça se transforme à les Stéphanois ont voulu faire un guet-apens aux Lensois. Il y a eu des tentatives d'affrontement. Non, justement, de base, il y a une hypocrisie totale entre la Ligue et tout le monde qui bande sur les fumis, les animations, mais qui par contre mettent des sanctions quand il y en a. Donc ça, de base, t'es un peu dépité, tu te dis mais ça rime à quoi? Bon, après là, sinon, plus récemment, au niveau de Saint-Étienne, les interdictions de déplacement. C'est purement un choix politique, donc et qui est quand même assez incompris par la plupart des acteurs du foot, de la sécurité, des groupes ultra, du club. Ça fait partie des endroits où il y a une des meilleures gestions communes du supporterisme. Et pourtant, par des décisions politiques, t'as Laurent Nunez qui remet le projet de dissolution sur la table. À part avoir une explication politique de la situation, il n'y a pas vraiment d'autres raisons sensées. Les arrêts qui sont tombés à Nancy et à Bastia, c'est surtout pour ça. C'était pour rajouter à l'ambiance répressive de « regardez, on va les dissoudre, et tellement ils sont dangereux, on va même les interdire de déplacement, sinon il y a des risques ». on a parmi les groupes ultra les plus influents de France, voire même d'Europe. Et ça, c'est reconnu par tous. Et à la différence, par exemple, de Marseille, en fait, il y a aussi des très bons ultras, mais il y a plein de groupes différents qui ont vraiment des manières de faire aussi très différentes, qui ont des relations avec le club très différentes. Et alors que nous, à Saint-Etienne, on a vraiment que deux groupes qui sont massifs, très unis, très soutenus. Soutenu par tous les pouvoirs publics, par toute la population. Enfin, vraiment, genre, c'est fou de voir à quel point les groupes d'ultra ici ils font l'unanimité. En tout cas, dans la plupart des situations. Et donc, très honnêtement, la volonté de tenter de les dissoudre, de les interdire, de les criminaliser, c'est surtout une volonté politique répressive générale qui est quand même de se dire, bah, en fait, si on arrive à dissoudre les groupes stéphanois, on sera capable de dissoudre n'importe qui. Que ce soit les Lyonnais, les Marseillais, les Parisiens derrière. On va mettre tous les groupes de supporters de France dans une terreur et donc du coup dans un immobilisme par rapport au, bah, à ce qu'ils pouvaient faire avant. Donc c'est une stratégie d'instaurer la peur. Et c'est les mêmes personnes qui répriment les manifestations, qui répriment les ultras. Donc c'est des schémas qu'on retrouve de manière assez similaire. C'est sûr qu'en t'attaquant entre guillemets au plus fort, bah, derrière tu sais que celui qui est un peu plus faible, il va pas faire long feu. Donc ouais, c'est le cas dans les mouvements sociaux, mais c'est le cas aussi dans les tribunes. Et il ne faut pas oublier que toute la répression qui est menée sur les ultras, c'est avant tout des choix politiques et ce n'est pas des nécessités.
La machine à découdre, un point de vue décousu.
Ça nous a donné envie de faire un déplacement. Ça tombe bien, les féminines jouent bientôt à Montpellier. Alors on contacte les Mystic Panthers 25, un groupe de supporters fraîchement créé il y a une petite année. Un groupe de supporters, de supportrices, des ultras. On comprend pas trop à quel moment on passe d'une catégorie à l'autre. Est-ce qu'un supporter devient ultra après avoir craqué un fumigène ou après avoir été interdit de stade? En tout cas, les Mystic Panthers 25 ne risquent pas encore la dissolution.
Je suis étudiante, j'ai 20 ans. Je supporte Saint-Etienne depuis un petit moment et avec des potes, on s'était rassemblés pour le match contre le PSG la saison dernière et avec d'autres gens d'ailleurs que je sais même plus trop comment ça s'était fait. Et on s'était dit que ce serait bien de mettre un peu d'ambiance au match des féminines parce que Saint-Etienne, c'est quand même connu pour l'ambiance, donc c'était dommage que les filles elles aient pas la même chose. Donc on s'est un peu lancé dans ce projet. J'ai passé quelques mois à me renseigner sur les assos, pouvoir rédiger les statuts et le règlement intérieur, voir comment on pouvait créer ça et tout ça. Après, on s'est rapproché du club pour avoir aussi leur accord. Et du coup, on a créé l'asso officiellement en août, donc je suis devenue la trésorière. Et voilà, donc on essaye de mettre un peu d'ambiance sur tous les matchs là, cette saison.
Est-ce que vous faites des déplacements? Est-ce que vous en faites? Et si oui, comment ça se passe?
Alors, on ne fait pas de déplacements. Pour l'instant, enfin, ce serait bien qu'on en fasse à l'avenir, c'est vraiment prévu, mais on n'est pas assez nombreux. Je sais qu'il y a certains membres qui font les déplacements quelquefois, enfin, ils avaient fait celui pour Lyon, il y en avait qui étaient aussi à Lens, mais du coup, c'est pas sous les couleurs du groupe pour l'instant, parce que ils y vont souvent soit deux ou tout seul, donc c'est pas. Enfin, ils se présentent pas comme membres des Mystiques, mais c'est quelque chose qu'on veut faire à l'avenir quand on sera un peu plus nombreux et qu'on aura les moyens aussi, parce que c'est pas donné non plus de faire des déplacements.
De ce que j'ai compris, elle joue finalement très peu à Geoffroy Guichard, c'est plutôt dans les autres sites de la SSE.
On est là, qu'elle soit à Salif, à Geoffroy ou même à l'ETRA. On a fait tous les matchs de la saison. Il n'y a pas un seul match où il n'y avait pas au moins un membre qui portait la bâche des Mystiques. Et du coup, on sera là au dernier match, même si c'est un mercredi à 17h30 et que là, 17h d'ailleurs, tout court, et que tout le monde sera pas forcément là parce qu'il y en a qui travaillent, mais oui, on est là à chaque match. En fait, nous, notre objectif, au-delà de juste mettre de l'ambiance dans le stade, c'est quand même de pouvoir un peu promouvoir le football féminin et essayer de ramener du monde pour que ce soit faisable qu'elle puisse jouer à Geoffroy Guichard tous les matchs, parce qu'au final, ça reste le stade du club et elles font partie du club.
C'est plutôt des gars qui sont au poste un peu de décision de l'assaut.
Ouais, en fait, dans le groupe, on est vraiment... je sais même pas s'il y a tant de meufs que ça, je crois qu'on est peut-être 2-3. Mais en fait, à être impliqué, il y a pratiquement que des garçons. Il y a des filles de temps en temps qui nous rejoignent, mais en fait, elles sont pas forcément impliquées à fond dans l'assaut. Mais j'aimerais bien qu'il y ait un peu plus de filles, mais... même dans le football en général, il y a quand même beaucoup plus de supporters hommes. Et du coup, faire venir des filles, c'est un peu plus compliqué, quoi.
Enfin, on nous a raconté qu'il y avait une personne au départ et tout dans le groupe qui était un gros partisan de Zemmour et qu'il y a eu un bail là-dessus et une exclusion. C'est un truc qui est vrai ?
En fait, c'était notre premier président. On le savait pas parce que on n'a pas spécialement fouillé... dans son passé, mais en fait, il avait des vieux retweets de Zemmour qui dataient d'il y a 3 ans. Donc, bon, moi, j'ai fait mes recherches, c'est plus d'actualité. Enfin, même, j'avais parlé avec lui, tout ça, il supporte plus du tout ces idées-là, mais du coup, ceux qui ont creusé, ils l'ont catégorisé comme ça. Donc, nous, on voulait pas véhiculer ces valeurs-là pour le groupe parce que c'est pas du tout ce qu'on partage, en fait. Donc, d'un accord commun avec les autres membres fondateurs, on a décidé de le mettre à pied, entre guillemets. Donc, il ne fait plus partie du groupe. Du coup, l'asso n'est pas partie du bon pied dès le départ, mais on a un peu rattrapé le tir.
Vous, politiquement, est-ce que vous vous positionnez à un autre endroit qu'un truc sportif ou pas ?
Pour l'instant, disons qu'on ne va pas s'engager sur des affaires politiques. Par contre, on va quand même défendre des valeurs qui sont le respect d'autrui, l'égalité, parce que au final, on se bat quand même pour l'égalité entre les hommes et les femmes, notamment pour le sport féminin. On est inclusif, donc peut-être qu'on penche peut-être d'un côté, mais je veux pas forcément parler au nom de tout le monde avant que le groupe se développe ou quoi, mais voilà, on a quand même des valeurs à respecter.
Et je voulais savoir quelles étaient votre relation avec les autres groupes de supporters de la SSE, notamment avec toutes ces histoires de dissolution, si du coup vous leur apportez leur soutien par rapport à ça.
Chaque membre du groupe soutient les Magic et les Green. En termes de relation avec eux, on n'a pas forcément de contact. Individuellement, on connaît forcément tous des gens qui font partie des Magic et des Green. Nous, on les a juste rassurés sur le fait qu'on n'était pas là pour prendre leur place. On est vraiment là juste pour supporter l'équipe féminine. Il n'y a pas de question de supporter des garçons ou pas. Ça, on le fait individuellement quand on est au stade avec les Magic et les Green de leur côté. Mais voilà, pour l'instant, nous, on serait très contents s'ils venaient en tant que groupe ou même en tant qu'individu chanter avec nous et nous soutenir pendant les matchs des féminines. Des fois, on en voit certains d'ailleurs.
On a croisé du beau monde tout au long de la soirée autour du stade. Entre toutes celles qui n'ont pas la chance d'être dans le chaudron et qui traînent leur spleen, et les employés mobilisés pour s'assurer que tout se passe bien et qui ne peuvent pas profiter du spectacle. Mais jusqu'ici, personne n'a été capable de nous faire entrer. Sans grand espoir, on tente notre chance au bar, évidemment plein à craquer de branquignoles qui n'ont pas trouvé de place comme nous. Une idée lumineuse nous traverse aussi l'esprit. Certes, l'accès au stade est interdit pendant le match, mais qu'en est-il une fois qu'il est fini ?
Il faut y croire, les gars, faut y croire.
Non, je m'attendais pas, c'est...
Bah, 7 minutes, c'est beaucoup. Hein.
Mais laissez-moi rentrer dans le stade.
Ah, on peut rentrer, là, je pense. Hein.
Allez, on y va.
C'est un malentendu.
Bah, cet après-midi, on était dégoûtés de pas trouver des places.
Ah, vous cherchez des places, vous ?
On était là, rive fraîche.
C'est vrai, il y avait zéro place.
Allez, on en a vu passer. Hein.
À combien ?
Ah bah des coques ou des
non coques. Mais d'une manière générale, à combien ?
Carré famille, 2 places, 40 balles. Essayer de les mettre dans le panier pour rigoler, c'était déjà parti.
Ah ouais.
On
on a essayé.
Et puis carré famille, tu vois pas grand chose. Hein.
Pendant une heure, on refresh, on a rien chopé.
Ah, rien. Bah finalement, regarde. 2-0, c'est pas plus mal. Hein.
Finalement, on est combien? On est 5, 5 places à 10 balles, ça fait 60 balles.
Ouais, mais ouais.
3 pichets, 4 pichets plus.
Ouais.
Sans être rentré au stade, c'est pas
finalement.
Mal.
Finalement, pour voir 2-0.
Ouais, ça fait mal. Hein.
Ah ouais, ça fait mal. Hein.
Merde. Allez, pour les nids.
Ah ben là. Là, ça aurait relancé l'espoir. Là.
Et encore. Ouais.
Oh, tu t'appelles Mathis, t'as lui fait ça.
Comme quoi, s'il reste en Ligue 2, on le verra peut-être mieux gagner que s'il passe en Ligue 1. Hein.
On peut essayer d'entrer quand même.
Non, on peut pas.
Ah, même si on a oublié un truc.
On voulait voir un petit peu le match.
Laissez sortir les enfants, les gars, vous êtes gentils. Ah, pardon.
On voulait voir un petit peu le match.
C'est pas retourné, les gars.
Ah bon?
Ouais, c'est fini. Bon.
Mais, et il y a combien du coup?
2-0 là.
2-0
oh, 3-3,
mais pour qui?
3-0.
Vas-y. Ah, on peut aller voir juste vite fait.
C'est fini là.
Ouais, mais il y a des prolongations. Hein. Ah ouais?
Non. Ah, on est pour un Champions League, les gars.
Bah, bientôt.
Ah, pas du tout. Pas maintenant, maintenant, je crois.
Plus mal ça.
Dans ce match, 3-0.
Un mauvais remix de Manu Chao.
On a des têtes de mule à la machine à découdre. On est persuadé que la liberté ne se donne pas, elle se prend. On aura donc essayé d'entrer au stade sans billet par tous les moyens ou presque. Constatant notre échec, on se console comme on peut. Nous aurons échappé au triste spectacle d'une équipe indigne de son public qui a perdu 3-0 devant des tribunes pleines à craquer. Comme quoi, le foot business monte ses limites. Dépenser des dizaines de millions d'euros pour transférer des joueurs stars ne suffit pas toujours pour dominer le championnat de deuxième division. La fête populaire est gâchée. On se dit aussi que nous l'avons échappé belle. En lisant le fanzine des Green Angels, la Garania de la Sud, nous apprenons que des ultras ont été interdits de stade uniquement pour avoir, je cite, avoir accédé à la tribune sans scanner son abonnement. Une interdiction de stade, c'est pas seulement l'impossibilité d'entrer dans l'enceinte sportive, c'est aussi être obligé de pointer au commissariat les jours de match. Une forme de répression qui risque de se durcir bientôt avec le projet de loi Riposte. Oui, c'est son vrai nom. Loi qui prévoit d'allonger la durée des interdictions de stade et d'augmenter le nombre de pointages aux comicos. Il s'agit de la même loi qui envisage d'envoyer en prison les organisateurs de free party et de pénaliser les teufeurs. Voilà qui ne nous étonne pas. Sous prétexte de lutter contre les « entre guillemets dérives festives », on comprend les bagarres et la drogue, les autorités appliquent une logique de punition collective. L'État condamne tout un groupe social en pointant du doigt la soi-disant culpabilité de celles et ceux qui auront osé déborder du cadre ou contester une injustice. Surtout, l'État utilise la répression des ultras et des rêveurs comme un laboratoire. Il teste depuis des années des outils juridiques spécifiques, par exemple la dissolution des groupes d'ultra ou les fermetures temporaires de tribunes. Ils déploient des dispositifs de contrôle particulièrement intrusifs, tels que des caméras de dernière technologie aux quatre coins des stades, et voire dans certains pays, le contrôle biométrique aux entrées et la reconnaissance faciale. Expérimentations qui ont ensuite vocation à s'étendre au reste de la société. Au même titre que la répression des habitantes des quartiers populaires, la lutte contre le terrorisme ou contre tout autre ennemi intérieur, des mesures d'exception sont ainsi testées, rendu acceptable, pérennisé puis élargi à l'ensemble de la population. Alors, venez hurler avec nous, le chaudron ne se dissout pas.